Ben bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. Salut les gens de Radio Prédication, parce qu'on continue à le diffuser avec les gens de Radio Prédication et on veut dire, vous dire, que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux saluer Claire et Nathan, Claire qui a prié pour un message ce soir, parce qu'elle m'a demandé à votre savoir un message. J'ai dit, moi je suis bien prêt à faire un message. Mais ça dépend pas de moi, ça dépend du Seigneur. Il va m'en donner un. S'il lui plaît de m'en donner un. Et oui, il va y avoir un message ce soir. Quel va-t-il être? Je vais pratiquement le découvrir en même temps que vous autres. On veut saluer le pasteur Laurier et son épouse. J'allais voir leur site. Ils ont changé leur site, hein. J'allais voir ça. Je sais pas comment ça fait le temps. J'allais voir aujourd'hui. On salue les gens de Saint-Just de Bretonnière. On veut saluer Réginal. On veut saluer Michel, qui est avec qui on va voir samedi. Michel, notre missionnaire haïtien, pour ne pas faire de jeu de mots. Et puis, c'est ça, on veut saluer nos petites sœurs, et puis tout le monde qui nous écoute, et puis on demande pardon à ceux qu'on oublie. Et puis, si vous voulez, on va prier, on va mettre ça au Seigneur, et puis on va commencer ce partage ce soir dans la table. Mais Père, on veut dire merci du privilège qu'on a d'être ensemble ce soir encore pour étudier ta parole, Seigneur. Et puis ce soir, on veut te demander pardon pour toutes nos transgressions, Père. Te demander pardon pour toutes nos iniquités, qui sont plus nombreuses que les cheveux de notre tête. Et puis Seigneur, on aspire à cette parole que tu as prononcée, Seigneur, pour nous. Là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je serai parmi eux. Seigneur, si tu n'es pas parmi nous ce soir, ce rassemblement ne sert de rien. Seigneur, on te demande d'être enseigné par le Saint-Esprit, d'avoir tes révélations divines, d'être connecté à l'éternité ce soir, Seigneur. Pour qu'on puisse être transformé, qu'on puisse être renouvelé, notre intelligence renouvelée, pour être de meilleurs ambassadeurs, des vases utiles dans la maison du Maître, des serviteurs, le sel et la lumière, pour la gloire de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Donc, Noiro même a prié avec nous. Hein? L'avez-vous entendu? Noiro, il a prié avec nous. On avait vu au dernier message, vous vous souvenez? Je peux pas t'en souvenir, Luc. Oui, t'étais là?
Oui, j'étais là.
C'est qu'on n'a pas fait dimanche. Parce que j'ai passé ma journée, une partie de la journée avec ma petite sœur Nicole. Et puis, on est arrivé trop tard. On n'a pas fait de message. Mais Luc, il était anxieux. Il dit, hey, tu me diras, mais quel message, oui, sur Internet. Et le message n'est pas venu. Oui. Désolé. Donc, voici pourquoi j'avais décidé de passer du temps avec Nicole. Ce qui est pas mauvais non plus. S'occuper de sa famille. Hein?
Exact.
Et puis, c'est pas si fort que ça, cette lumière-là. Et puis, le dernier partage, on avait vu deux séries qui s'appelaient Humilité et Grâce. Hein? Et dans cette série-là, on avait parlé de les six, non pas les six, mais les sept choses que haït l'Éternel. Ça va faire ça va être paradoxal ce soir parce que ce soir on va parler d'amour. Mais il y a des choses que l'Éternel haït. Et la première, c'était l'orgueil, hein, l'arrogance. Et puis de l'orgueil et de l'arrogance découlent tous les maux, hein. Découlent toutes les autres, les mensonges, les mains qui répandent le sang innocent, les cœurs qui méditent des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Donc, voici les choses que l'Éternel haït. Donc, on devrait être en mesure, quand on est mis en présence de ces choses-là, de se lever pour le Seigneur. Hein? Quand on se rend compte qu'il y a des choses comme ça qui se passent, on doit les dénoncer. On doit se lever pour le Seigneur, on doit les dénoncer. On ne doit pas laisser le mal progresser. Il y a quelqu'un qui a dit, si l'homme de bien ne se lève, le mal progresse. C'est ma petite sœur Lynn qui a eu cette parole-là. Elle n'a jamais trouvé le verset. Oui, c'est donc vrai. Si l'homme de bien ne se lève, le mal progresse. Donc, si je vois des choses comme ça, puis j'interviens pas, je les laisse faire, ben, je contribue à au mauvais royaume. Je contribue à l'expansion du mauvais royaume parce que j'ai rien fait pour le stopper. Comment je peux le stopper? Avec la parole de Dieu. En reprenant la personne, toujours la parole. Pas essayer de faire ça moi-même. On demande la direction du Saint-Esprit et puis on utilise la parole. J'ai une personne qui me disait aujourd'hui, je peux pas donner de détails là parce que c'est que quand elle s'est mariée, il y a des personnes qui il y a une ou des personnes qui se sont objectées. Tu sais, quand le prédicateur, le curé, ou appelez-le comme vous voulez, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'oppose? Il y en a un qui s'est levé. Ou il dit, moi, je m'oppose, je suis contre. Mais la personne, on n'a pas trop cherché à savoir, peut-être, qu'est-ce qu'elle voulait dire. Puis lui, il n'a pas utilisé la parole de Dieu pour dire pourquoi il s'opposait. Puis peut-être que s'il l'aurait fait, peut-être que ça serait passé différemment. Donc, de là, l'importance de se lever. Quand on est en présence de quelque chose, puis on sait, Saint-Esprit nous montre que c'est quelque chose qui est contre la parole de Dieu, évidemment. Et puis, c'est une bonne occasion qu'on a de manifester le bon royaume et puis d'appliquer dans l'amour et la grâce la parole de Dieu. Amen? Donc, Marilyn est au téléphone et c'est parfait. D'habitude. Je vous l'ai dit, là, toi et puis Marilyn, un jour, vous allez être des leaders de jeunesse. Je vous l'ai dit. Vous ne me croyez pas, mais je le sais que vous allez être des leaders de jeunesse. Nicole a dit qu'elle va dormir très longtemps. Elle se fait opérer, Nicole. On va prier. Faites-moi penser de prier pour Nicole tantôt, pour son opération demain, que tout aille bien. Et puis, elle va faire une petite opération d'un jour, mais... Quand même, elle est toujours inquiète, mais on va lui demander que le Seigneur la fortifie là-dedans. Et puis, on sera pas loin, hein? On sera pas loin. Une mauvaise vue? Pas qu'il voit tes pierres, moi, mais ça faisait mal. Ouais. OK. Donc, c'était le dernier message. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux parler d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait hier? C'était quoi la date hier? Ah, c'est Saint-Valentin. Toi, tu t'en rappelles plus, là? Hier, c'est la Saint-Valentin. C'était la fête des amoureux. Hein? On peut dire ça. Donc, on voit, là, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que j'ai arrêté au dépanneur pour aller acheter des cœurs en chocolat pour, tu sais, j'en mets ça à la table, j'en donne un à Marie pour dire, tu sais, bonne Saint-Valentin, pour dire que j'y ai pensé. Mais là, j'ai vu comment le monde était pressé. Il n'y avait plus rien au dépanneur. Tout le monde avait dévalisé le dépanneur pour les affaires de Saint-Valentin. Puis le monde, il y avait un fleuriste en avant. Les gars, ça voyageait les fleurs, tu sais. Puis là, je faisais un petit peu d'humour avec les gens avec qui je travaille. Puis au dîner, je les ai dit, messieurs, vous êtes mieux de prendre 15 minutes aujourd'hui pour ramener quelque chose pour la Saint-Valentin à la maison, plutôt que de prendre 2 semaines à expliquer pourquoi vous l'avez pas fait. Puis là, ils ont tous parti à rire, mais ils ont dit, c'est donc vrai. Bonjour, Marilyn. On devrait débrancher le téléphone, hein? Ah, c'était pour Nicole? OK. C'est correct, hein? Ouais. On va s'en occuper. Donc, c'est ça. Donc, c'était la Saint-Valentin. Et comment on peut pas parler de la Saint-Valentin sans parler de Jésus? Qui est lui-même la manifestation de l'amour. Là, je voyais, comme je vous disais, je voyais tous ces gens-là qui étaient super pressés d'arrêter chercher quelque chose de la Saint-Valentin, tu sais, hier. Il n'y avait plus rien au dépanneur. Le dépanneur était dévalisé. Les gars, ils charriaient chez le fleuriste, tu sais, puis tu voyais que les gars étaient pressés, ils couraient, là. Puis là, je me disais, je comprenais vraiment ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 7. Quand il disait, si t'es-tu tout seul, si t'es capable de rester tout seul, reste donc tout seul. Puis là, vous allez me dire, c'est égoïste ce que je dis là. Mais ceux qui écoutent puis qui vivent des situations, ils vont dire, oui, c'est donc vrai. Il y a un vieux dicton qui dit, vaut mieux être seul qui a mal accompagné. Quand c'est quelque chose, un union que Dieu bénit, c'est correct. C'est pas qu'il n'y aura pas de tribulation, il va en avoir, mais Dieu va être dans l'union. Mais quand c'est des unions faites parce qu'ils veulent être seuls, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas être seules, fait que n'importe quoi pour pas être seul. Là. Puis moi, depuis que je suis au Seigneur, j'ai eu des occasions, Marilyn elle sait, puis c'est pas pour me vanter de ça, mais des occasions, des femmes seules dans les églises, il y en a. C'est plein. Qui attendent l'homme idéal. Là. Tu sais? Et puis là, je voyais tous ces gens-là pressés. Puis là, j'ai comme compris la parole de Paul dans 1 Corinthiens 7 qui disait. Il dit qu'un homme qui est avec une femme ou une femme qui est avec un homme va s'occuper premièrement de la femme ou de l'homme. Deuxièmement, va s'occuper de Dieu. Mais la personne qui est seule, puis qui a dévoué sa vie à Dieu, elle va s'occuper premièrement de Dieu. Fait qu'il dit, êtes-vous capable d'être seul? Ce que je veux dire, c'est que les gens, les chrétiens aujourd'hui qui sont seuls, je vous dis pas que c'est pas bon d'être en couple, pas ça je dis. Je dis qu'il y a des gens que sont malheureux parce qu'ils sont seuls, ils se trouvent bien d'une mauvaise situation, mais la Bible dit que c'est une bénédiction d'être seul. Parce que les personnes qui sont seules s'occupent premièrement de Dieu. La préoccupation de leur vie, c'est Dieu. Mais à partir du moment qu'ils ont une personne qui arrive dans le décor, ben là, c'est plus Dieu. C'est la personne. Puis là, la personne devient... Tu étudies la personne? M'excuse. Mais là, la personne, le Dieu, ça devient le Dieu. Tu sais. Le fameux conjoint ou la fameuse conjointe convoitée devient l'idole. Donc, tout devient axé sur cette personne-là. Je le sais parce que vous le savez aussi parce que vous l'avez vu, moi je l'ai expérimenté, il y a des gens là, c'était tellement poussé que ça n'était ridicule. Tu sais, même si je l'avais dit, moi là, regarde, je veux pas de relation, je suis juste comme ami, un frère et sœur, puis tu sais, ça avait tout mis ça clair, parce que c'était important. Ben la personne là, c'est fou ce que ça fait faire, les émotions et les sentiments. C'était rendu ridicule à force qu'elle t'a rendu accro. Puis pas rien qu'une personne, qu'est-ce qui est arrivé? Là. C'est arrivé à plusieurs personnes. C'est donc que quand on se lance dans une union qui n'est pas bénie de Dieu, Paul le dit, je voudrais tant vous éviter ces tribulations. Hein, parce qu'il va en avoir des tribulations dans le couple. On voit des gens aujourd'hui qui s'en remettent en question. Moi, je vois des gens aujourd'hui qui s'en remettent en question, qui disent, je sais pas si j'aurais fait la même affaire. Je sais pas si je referais la même affaire aujourd'hui. C'est lourd, là, comme déclaration. Comprenez? Fait que quand il s'agit d'un conjoint, d'une conjointe, très important de mettre ça devant Dieu. De savoir si c'est Dieu qui a béni cette union-là. Parce que si c'est Dieu qui l'a faite, c'est qu'il y a un ministère pour les deux. Ensemble. Les personnes vont avoir besoin l'un de l'autre dans le ministère que Dieu a préparé. Mais vous savez que ça peut être l'inverse. Que Dieu peut avoir un ministère pour moi, puis si je vais me chercher que la première, puis les conjointes, là, aujourd'hui, vous savez, c'est pas ça qui est un problème. Mais si je vais me chercher une conjointe, puis que j'écoute ma chair au lieu d'écouter le Saint-Esprit, ben, je peux passer à côté de mon ministère. Cette personne-là peut me faire passer à côté de mon ministère parce que elle va me faire bifurquer de l'appel que Dieu avait placé sur ma vie parce qu'elle, évidemment, c'est pas son appel. Elle, ce qu'elle veut, c'est un homme, prends-tu un de moi. Tu sais? Ou une femme, tu sais, pour s'occuper de la maison. Les femmes s'occupent plus de la maison aujourd'hui, monsieur. Donc, les relations, c'est important. Évidemment, il faut que tout passe par Dieu. Mais premièrement, les relations qui passent par Dieu. Puis moi, toutes les fois que je suis allé voir, tu sais, je suis allé voir le Seigneur, parce que, tu sais, évidemment, on vit, moi, ma réflexion que j'avais cette semaine, c'est que j'étais condamné quand on est chrétien. à vivre dans un corps qui est vendu au péché, qui est ennemi de Dieu. C'est ça notre défi. Hein? Vous déjà pensé à ça? C'est ça notre défi, dans le fond, dans la vie chrétienne. C'est de vivre dans un corps qui est vendu au péché, puis qui est ennemi de Dieu. Fait que, tout bout de champ, moi, Dieu m'a déjà répondu sur quelque chose, puis j'y repose la question, puis il m'a répondu encore. J'ai déjà répondu à ça. À chaque fois que je demande la question à Dieu, Dieu m'amène dans 1 Corinthiens 7. À toutes les fois. Puis il dit, je t'ai-tu appelé seul? T'arrives seul. Quand je t'ai appelé, t'es-tu avec quelqu'un? Arrive avec cette personne. Mais si t'es pas marié, cherche pas à te marier. Puis si t'es marié, cherche pas à te séparer. Reste dans l'état dans lequel je t'ai appelé. Sauf pour les personnes que lui a dirigées autrement. Comme vous autres, votre jeune couple, je sais que c'est béni de Dieu. Je sais que Marilyn l'a mis devant Dieu, qu'elle a eu ses réponses. Et puis, c'est important, parce que c'est des couples qui vont avoir... quand c'est pas des couples bénis, vous en connaissez beaucoup, des jeunes qui ont des couples qui sont beaucoup de souffrance, là, parce que ils écoutent les préceptes du monde aujourd'hui, puis ils suivent les préceptes du monde. Ils se ramassent qu'ils ont beaucoup de peine, puis ils ont beaucoup de tribulations, puis c'est dommage. C'est dommage. Mais je voulais faire cette clarification-là aujourd'hui pour la Saint-Valentin, pour peut-être encourager tous les chrétiens qui sont seuls. Vous ne savez pas peut-être que c'est une bénédiction que vous avez d'être seul. Vous pensez que c'est difficile d'être seul, vous pensez que ça serait mieux une vie à deux. Moi, je peux vous amener des personnes qui vont vous dire le contraire, qui vivent à deux. Donc, ce qui est important, c'est que Dieu soit en premier dans toutes nos décisions. Et si j'ai à rentrer dans une relation, il faut que je sois certain que Dieu l'a béni. Que Dieu va bénir la relation. Parce que ça peut être un piège de l'ennemi. Pour comment qu'il a fait tomber les plus grands pasteurs, l'ennemi? Les plus grands pasteurs, les grands prédicateurs. Là. Il y a plusieurs grands prédicateurs qui avaient beaucoup de... avec l'adultère. Il les a fait tomber avec l'adultère. Ah, il y en a un, c'était filmé. Vous l'avez déjà, moi, j'en reviens à pas. Ça avait été filmé, en plus. Ça avait tellement été organisé que c'était filmé. Ils l'ont filmé. Pensez-vous à ça, que c'était incroyable? C'était incroyable. Je vais aller voir si j'ai... oui, j'ai fait ça sur enregistrer. Une fois, je pars, puis j'y pense pas. Donc, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Vous savez, Saint-Valentin, c'était qui? C'était un prêtre qui mariait des petits jeunes couples en cachette pour pas qu'il soit l'homme soit obligé d'aller pour le service militaire. Vous saviez ça? C'est ça l'histoire de Saint-Valentin. En gros, je vous fais ça en gros, là, je l'ai déjà fait, mais je voulais pas faire ça aujourd'hui. Je voulais juste parler que notre premier amour, ça devrait être Jésus. Tout le temps. Dans tout ce qu'on fait, même quand on est marié. Ça devrait être Jésus. Parce que c'est vraiment, il n'y a personne qui va nous aimer, qui nous a aimés, qui va nous aimer et qui nous a aimés autant que Jésus-Christ. Il n'y a pas une personne sur la terre. Puis moi, je regarde des fois les gens, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour une femme ou pour un homme. Hey, ça m'est ridicule, des bouts. Qu'est-ce que la personne, tout ce que la personne est prête à faire, là, ou ce qu'elle fait, là. Puis, de voir comment est-ce que les gens... Moi, je trouvais que la Saint-Valentin, c'était la fête de Jésus, parce que Jésus est amour, hein. Et puis, dans 1 Jean, le verset que je vais vous citer aujourd'hui, c'est dans 1 Jean 4, que je vais vous dire, 1 Jean 4, 10. Et puis, ça nous dit, « Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé. » Puis, ce que ça veut dire dans l'original, c'est que lui nous a aimé le premier. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je pense pas qu'il y a un plus grand amour que ça. Puis on n'est pas conscient de ça d'un fois. Comment Dieu nous aime, puis comment Jésus nous aime, puis comment dans les fêtes de les fêtes païennes, comme on pourrait appeler, comment qu'on est porté à oublier notre Seigneur. Moi, j'ai dit les fêtes, là. Je pense qu'il n'y a pas de fête que je vais m'élever contre tant que je vais être capable de l'utiliser pour rendre gloire à Dieu. Puis la Saint-Valentin, pour moi, c'est la fête de Jésus-Christ. Parce que c'est la fête de l'amour. Il n'y a personne, je suis certain qu'il n'y a personne sur cette terre qui va faire pour vous pour n'importe lequel d'entre vous ce que Jésus a fait. Je vais aller plus loin que ça. Il n'y a personne sur cette terre qui ferait pour Jésus ce que lui a fait pour nous. C'est pour dire que il n'y a pas un plus grand amour que ça. Est-ce qu'on est conscient de cet amour-là? Je pense qu'on a de la misère à saisir ça, comment Dieu nous aime. Des fois, on pense que notre attitude ou notre façon de se conduire change la façon que Dieu nous voit. Et, tu sais, des fois, on va pécher, tu sais, on se sent poche, on va échouer, on va tomber, puis là, on se sent vraiment en sale, tu sais, puis on pense que Dieu nous voit pas de la même façon, mais Dieu, son amour est inconditionnel. Dans les versets que je vous parle, dans 1 Jean 4, versets 1 à 21, savez-vous comment dans l'original, comment le mot agapé est nommé 2 fois? 21 fois. Puis le mot agapé, c'est amour inconditionnel. On pense que il n'y a même pas personne qui est capable de décrire ce mot-là parfaitement ce qu'il veut dire parce que c'est au-dessus de notre connaissance, l'amour de Dieu. Mais c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition, c'est-à-dire que peu importe ce que je fais, Dieu m'aime d'une façon inconditionnelle puis au plafond. Comprenez-vous? Il m'aime au maximum, il ne peut pas m'aimer plus que ça, puis il m'aime de façon inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quoi que je fais, ça change pas la façon que Dieu me voit. Parce que Dieu me voit à travers son Fils. Dans Colossiens 3:3, ça dit que j'ai été caché en Jésus-Christ. Donc, Dieu me voit à travers son Fils. Fait que quand il me voit avec son amour de Père. Parce que je suis devenu fils maintenant. Je suis né dans le royaume. Hein? Quand je suis né de nouveau, je suis né où? Dans le royaume. Donc, est-ce que je suis conscient vraiment que Dieu, peu importe ce que je vais faire, il m'aime au plafond. Il n'y a rien qui va changer ça. Même si je tuerais quelqu'un, même si je vais faire les pires, c'est moi qui c'est ma vie qui va être foutu par terre, là. C'est qui va être foutu en l'air si je fais des choses comme ça. Mais ça changera pas la façon que si je suis né de nouveau, puis que je tombe et je fais des choses épouvantables, Dieu ne m'aimera pas moins pour ça. Tandis que nous, notre amour, on peut pas comprendre ça parce que notre amour est conditionnel. Je vais t'aimer si tu m'aimes. Mais si tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est vrai? Hein? Fait que c'est la différence qu'il y a avec l'amour de Dieu puis notre amour charnel. Notre amour charnel, c'est pas un amour qui peut nous diriger, qui nous donner une idée de l'amour de Dieu. Donc, je voulais être aujourd'hui, mettre l'emphase que la Saint-Valentin, c'est la fête de Jésus. Et que Jésus devrait toujours être en premier dans nos vies. Puis quand on a commencé à le mettre en premier dans nos vies, on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'on voit les bénédictions, tu sais, puis les miracles qui arrivent, parce que là, on a décidé par la foi de dans un corps déchu, de suivre notre Seigneur. Donc, là, on commence à expérimenter les miracles, puis Dieu commence à manifester sa puissance à travers nous. Et puis, son amour, je commence à toucher puis à être transformé par son amour. Est-ce que j'ai le goût de faire des choses? Voyez-vous, il y a deux choses très différentes. Il faut que le chrétien, en général, soit capable de faire la part des choses. Il y a des gens qui font des choses pour que Dieu les aime. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que là, je commence, vous savez, c'est comme, je vous l'ai déjà expliqué, c'est comme la batterie dans l'outil à batterie. Là. Quand je fais des choses que Dieu m'aime, là, je me mets à faire des affaires que Dieu m'a pas demandé. Puis Dieu m'a vraiment demandé de faire ça, mais je veux tellement, là, j'ai été touché, j'ai eu une touche de Dieu. Vous regarderez ça, les gens qui sont nés de nouveau, qui ont une touche de Dieu. Ils ont le goût de partir à courir dans la rue, d'aller dire à tout le monde. Ça, c'est une personne qui vient de naître de nouveau. Vraiment, elle a le goût d'en parler à tout le monde, elle a le goût de faire toutes sortes d'affaires. Et puis ça, c'est un piège qui atteint le chrétien en général, le nouveau chrétien. Mais quand je suis en relation, dans une bonne relation avec mon Seigneur, dans une relation personnelle, je vais vouloir faire des choses parce que Dieu m'aime. Pas pour que Dieu m'aime. C'est parce que je vais avoir premièrement goûté à l'amour de Dieu. Je vais m'avoir placé en dessous de son amour. Puis je vais avoir appris à recevoir cet amour-là dans ma relation personnelle. Donc, c'est la première chose que j'ai à faire. Premièrement, c'est de la recevoir, son amour. De prendre conscience que Jésus puis Dieu nous aime, et puis de commencer à développer notre foi à travers ça, puis au travers d'une relation personnelle avec lui. Et puis là, ça va commencer. Là, je vais commencer, comme la Bible dit, à être attaché au cep, hein, le sarment va être attaché au cep, et puis là, il va commencer à porter du fruit. Hein, quand il parle l'exemple de la vigne, le sarment, c'est la branche. Le cep, c'est Jésus. Si le sarment n'est pas attaché au cep, est-ce qu'il va produire du fruit? Il peut. Peut-être bien produire des pommes au lieu des raisins. Ou des oranges. Ou des boules de chair. Mais quand j'apprends premièrement dans ma vie chrétienne à être connecté à Jésus, à me placer sous l'amour de Dieu, mais là, je suis connecté au cep. Et puis là, ça commence à porter des fruits. Et puis là, je commence à marcher dans ma vie chrétienne, pas pour que Dieu m'aime, parce que Dieu m'aime. Ça va produire le bon vouloir et le faire, que ça dit dans les Écritures, en moi. Mais pour ça, faut que je développe ma relation personnelle avec Dieu. Est-ce que Dieu me condamne quand je tombe ou quand... Là, qui dit non. Marilyn, elle répond plus. Elle est rendue familière. Non, elle dort pas. Ou elle a trouvé le moyen de dormir les yeux ouverts. Je pense pas. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand il y a de la condamnation, ça vient jamais de Dieu. Dieu ne condamne jamais. Ça fait partie de une des caractéristiques de son amour. C'est que Dieu nous condamne jamais. Dieu veut nous exhorter, nous enseigner, nous corriger, nous diriger dans la bonne voie, parce qu'il veut nous bénir, puis il veut nous donner des bénédictions, puis il veut nous donner des récompenses. Parce qu'il nous aime, parce qu'il sait qu'on n'est pas dans un corps c'est pas notre corps glorieux qu'on a. On a notre corps de chair qui est vendu au péché puis qui est ennemi de Dieu. Et puis, bon, il était conscient de ça, là. Il s'étonne pas qu'on tombe, là, puis qu'on pêche, qu'on tombe, qu'on se relève, on continue. Mais Dieu nous condamne pas. C'est un autre point de son amour qui est important de comprendre. C'est que Dieu nous condamne jamais. Et c'est nous-mêmes et c'est l'ennemi. Et quand c'est pas nous-mêmes et l'ennemi, Nicolas demande c'est qui nous condamne, mais c'est nous-mêmes ou c'est l'ennemi, ou c'est l'ennemi va se servir des gens autour de nous. Mais par contre, faut faire attention. Parce que il y a quand même des préceptes bibliques, puis il faut les suivre. Hein? Puis si on suit les préceptes bibliques, est-ce que je vais être condamné? Je ne sais pas où on en est. C'est que ma vie va en être affectée. Parce que je n'ai pas suivi un précepte biblique. Vous comprenez? Et puis ça, ma vie va... Le Seigneur veut pas parce que ma vie va être appauvrie. Le Seigneur, il veut qu'on ait des vies riches. Il veut qu'on ait des vies de prince, de princesse. Bon, je pense que tu commençais à voir le plan de tout ça, comment ça marche. Fait que nous, notre partie, c'est de laisser mourir la portion de notre corps qui est ennemi de Dieu puis qui est vendu au péché. Bon, ça, c'est un processus qu'on appelle de sanctification qui est plus ou moins long selon l'individu. Puis selon le bon vouloir et le faire de chaque personne. Selon la personne à quel point elle est prête à abandonner, à laisser aller tel point, à laisser aller l'autre point. Vous souvenez-vous d'une histoire dans la Bible où Jésus n'a pas condamné quelqu'un puis il y a plein de monde qui le condamnait? La femme adultère. Hein? C'est la femme adultère qui avait été prise en flagrant délit. Là, j'ai pas l'écriture devant moi, là, c'est la loi, elle disait de lapider une telle femme. La loi hébreu. Ouais, mais c'est à cause d'elle. On partira pas ça, là. Luc, il dit, comprends pas qu'il lapidait Joseph, il lapidait pas l'homme, tu sais. Ouais. C'était de sa faute à elle, tu sais. Mais on partira pas ça parce que c'était un régime qui était très, ouais. Mais, effectivement, il y a toujours deux individus dans un adultère. Il n'y a pas juste un. Il y a toujours deux individus. Qui sont, mais on donnera pas l'emphase à l'adultère. C'est que, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Quand cette situation-là est présentée. Moi, il y a écrit dans le sable, hein. Pendant qu'il écrivait dans le sable, je sais pas ce qui se passait. On n'a pas de précision là-dessus. Mais tu sais que pendant qu'il disait, là, pendant qu'il l'accusait, la femme, qu'elle avait été prise en flagrant délit. Puis, ça a l'air qu'il écrivait des choses dans le sable. Je sais pas qu'est-ce qu'il, exactement. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des suppositions. Mais, en tout cas. Et puis là, à un moment donné, il a dit, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Fait qu'il venait de mettre les fondements du pardon. Vous comprenez? Parce que c'est le fondement de l'amour, c'est premièrement le pardon, parce que si on se pardonne pas, il n'y en aura plus d'amour. Il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. Puis s'il n'y a pas de pardon, ben c'est brisé. Les relations sont brisées. Donc, il a demandé à celui qui avait jamais péché de lancer la première pierre. Puis savez-vous comment ça s'est passé? Puis là, il y a un indice là-dedans, il y a une pépite. C'est que c'est les plus vieux qui ont lâché les pierres des premiers. Vous allez me dire, il y avait plus de péché? Peut-être. Il y a peut-être plus de sagesse aussi. Les jeunes, ils étaient peut-être plus orgueilleux puis prêts à lapider. Moins willing à pardonner. Quand on est plus jeune, hein, peut-être qu'on a moins d'expérience, puis on a moins de capacité aussi, de vécu, qui fait que là, ils ont lâché les pierres des personnes les plus vieilles aux plus jeunes qui sont partis. Et puis Jésus s'est tourné vers la femme, puis il a dit, « Femme, où sont ceux qui te condamnaient? » Elle a dit, « Ils sont partis. » Il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. » Donc, on a maintenant le cœur de Dieu. On a quelque chose que nous, on peut pas reproduire nous-mêmes. Et puis ça, ben, voyez-vous, cette femme-là, là, elle a reçu l'amour de Dieu dans cet événement-là. Puis à partir de ce moment-là, elle a toujours été avec Jésus. Puis ses disciples, elle a plus jamais laissé son sauveur. Elle a toujours rester avec son sauveur. Et puis, quand on touche à l'amour de Dieu, quand on reçoit l'amour de Dieu, c'est ça que ça produit. Donc, c'est très important pour la Saint-Valentin, en tant que chrétien, que je sois conscient que Dieu m'aime et que j'expérimente cet amour et que je sois conscient à quel point Dieu m'aime. Sacrifier son fils, a donné son fils unique. Son fils a donné sa vie lui-même. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, je vais y aller. Tu sais, je vais y aller pour payer la place. Donc, c'est prendre conscience de ça, c'est pas être familier avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de, je pense qu'on sera jamais, on viendra jamais à bout d'y toucher vraiment. Quand tellement Dieu nous aime, tellement Dieu a déployé de grandes choses pour nous, qui avait de grands projets pour nous. Et comment que Dieu veut que personne aille en enfer, que tout le monde soit sauvé. Et puis ça, ça fait partie d'un peu de notre ministère d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Et quand je vais avoir reçu cet amour, là, je vais commencer à avoir le goût d'en parler aux autres. Pas d'en parler parce que mon pasteur m'a dit d'aller à l'évangélisation vendredi soir. Puis que si je vois pas, il y en a qui vont dire, pourquoi tu viens, toi? Ça, c'est l'autre opposé, comprenez-vous? Ça, c'est faire des choses pour que Dieu m'aime. Mais quand je vais m'avoir, premièrement, en tant que chrétien, assis à développer, à recevoir cet amour-là de mon Seigneur, là, cet amour-là en moi, ça va produire l'envie d'en parler à tout le monde. Et puis là, même que j'en parle, je vais être bien plus convaincu, là. Tu sais, je vais être bien plus convaincu de ce que je parle parce que je vais l'avoir expérimenté, l'amour de Dieu. Fait que je vais avoir l'assistance du Saint-Esprit. En plus, je vais avoir le vécu. Fait qu'imaginez. La femme aux cinq maris au puits. Souvenez-vous cette histoire? Pas tellement. Luc, c'est le fun parce que je peux tout y raconter encore. Tous les autres les avaient déjà, mais Luc, c'était, il y avait, il a demandé de l'eau, puis elle en a donné. Puis là, la femme, elle avait cinq maris. Puis elle dit, puis je me souviens plus exactement. Elle avait eu cinq maris, puis elle dit, celui qui est avec toi, c'est pas ton mari. Et là, Dieu sait tout, là, tu sais. Dieu, il voit tout, hein, Nicole? Tu avais montré ça une fois, hein, qu'il voyait partout. Et puis là, elle s'est rendue compte, la femme, que, wow, elle savait qu'il y avait quelqu'un devant elle, tu sais. Et puis là, il lui a parlé, puis là, elle a vraiment reçu cette eau-là de la vie éternelle. Et puis quand elle a été touchée, qu'est-ce qu'elle a été fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit que elle a été partout dans la décapole. La décapole, vous savez c'est quoi une décapole? C'est un groupe de 10 villes. C'est pour ça qu'ils appellent ça décapole. Elle a été parler à tout le monde de Jésus. Parce qu'elle avait vécu quelque chose avec Jésus, puis qu'elle avait été pardonnée, puis qu'elle avait reçu l'amour de Dieu. Ben, c'est cet amour-là qu'il faut recevoir. Puis quoi de mieux que la Saint-Valentin pour parler de cet amour-là? Amen! Donc, je vous souhaite à chaque chrétien, premièrement, une joyeuse Saint-Valentin divine avec Jésus. Deuxièmement, tous les chrétiens qui sont seuls et qui se sentent esselés et qui se sentent dépourvus, réfléchissez bien si, dans le fond, vous n'êtes pas bénis. Ce n'est pas une bénédiction que Dieu vous fait et que Dieu n'est pas en train de préparer un ministère pour vous. Donc, j'aimerais vous encourager à ne pas vous apitoyer sur votre sort, à ne rien faire qui pourrait vous amener dans des situations vraiment dramatiques au niveau de votre appel, et plutôt de vous appliquer à recevoir l'amour de Dieu. Et puis ça, vous allez voir que ça va produire des choses incroyables, extraordinaires. Amen! On va prier. Ben, Père, on veut te dire merci pour cet amour, Seigneur. On te demande de nous donner une révélation spéciale, Seigneur, de cet amour pour qu'on puisse la transmettre aux gens autour de nous, qu'on puisse avoir ce feu qui brûle dans notre cœur pour toi et qu'on puisse avoir à cœur de que tu sois toujours en premier dans tout ce qu'on fait, Seigneur, dans nos vies. De te dire merci pour cet amour, Père, qu'on peut pas te rendre, évidemment, parce que cet amour est trop grand. Il est presque incompréhensible pour nous. Mais tout ce qu'on peut faire, Seigneur, c'est de le recevoir. On te demande d'être capable de se placer en dessous de cet amour dans toutes les situations pour pouvoir la redonner autour de nous, Seigneur, être des vases d'honneur qui reçoivent cet amour, pour pouvoir la diffuser dans ce monde de souffrance qui est perdu, Seigneur, pour que la lumière de Jésus-Christ brille autour de nous. Et c'est en son nom qu'on prie, Seigneur, ce soir. Amen. Merci beaucoup. On va prier ensemble, Nicole.